Bonjour et bienvenue au Transversal, une émission dédiée aux artistes de la musique, du théâtre, du cirque, de la danse. 40 minutes d'émission enregistrées et diffusées en deux volets, les mardis et mercredis matin à 10h35, en direct sur les ondes de Radio JM 90.5 ou encore en différé sur le site des Transversales. Cette semaine, il est question du MUCEM. Il est question de l'exposition René Perrault, Mon pauvre cœur est un hibou. C'est depuis le 24 novembre de cette année, 2023, et une exposition qui durera jusqu'au 10 mars 2024. C'est au bâtiment Georges-Henri Rivière au MUCEM. Et je cite, conçu par la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson et par le MUCEM. Pour en parler donc, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Bory, conservateur du patrimoine, responsable du pôle croyances et religions au MUCEM. Il est co-commissaire de l'exposition avec Marie-Charlotte Calafa, conservatrice du patrimoine, responsable du département des collections et des ressources documentaires, et avec Alice Bernadac, conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. René Perrault, Mon pauvre cœur est un hibou, une exposition qu'on a pu voir l'été dernier de juillet à septembre à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, nous en reparlerons. Et pour évoquer ce sujet, Raphaël Bory est avec moi cette semaine. Bonjour à vous, Raphaël Bory.
Bonjour.
Et bienvenue au Transversal, ravi de vous accueillir dans cette émission. On l'a dit, vous êtes l'un des commissaires de cette exposition consacrée à René Perrault et que vous avez intitulé et sous-titré « Mon pauvre cœur est un hibou ». Pour quelle raison ce titre ?
Alors, c'est un titre, un sous-titre en tout cas, qui d'abord est assez poétique et même il est poétique dans le sens où il vient d'un poème de Guillaume Apollinaire dont il s'agit du titre, et c'est aussi un poème que René Perrault a intégré dans l'une de ses tapisseries, qui est présentée dans l'exposition, dans les années 1950-1960. Les artistes qui réalisaient des tapisseries à Aubusson, à Felletin, avaient pour habitude d'intégrer des éléments de poèmes avec de très belles lettres en couleur dans leur tapisserie. Et René Perrault a spécifiquement choisi, parmi d'autres, d'illustrer ce poème de Guillaume Apollinaire. Et on l'a choisi pour titre également parce que les hiboux, les chouettes, sont l'un des motifs centraux de l'œuvre tissée en tapisserie de René Perrault, et aussi parce qu'il avait un goût très prononcé pour ses oiseaux, pour ses rapaces nocturnes. Il expliquait qu'il avait une tendresse particulière pour eux au sein de son amour de manière générale pour la nature, parce qu'ils étaient un petit peu plus mal aimés que d'autres oiseaux, d'autres animaux. Les chouettes, les hiboux sont des rapaces nocturnes, ils poussent des cris qui peuvent être un peu terrifiants dans la nuit. Pour cette raison-là, ils avaient tendance à être associés à des forces négatives. Et dans l'exposition, on présente aussi une autre œuvre qui est très forte, qui s'appelle « Comme on la voit clouée à la porte des granges », et c'est une pratique qui avait horrifié René Perrault quand il était enfant, celle de crucifier finalement à la porte des granges les hiboux, les chouettes, pour repousser le mauvais œil.
Et d'ailleurs, dans ce poème qui correspond au bestiaire, où il y a 32 ou 33 thèmes, mais toujours sur le bestiaire, j'ai pu lire justement par rapport à ce que vous dites, ça m'évoque ça. On parle de clous et de... Alors attendez, il faut que je retrouve, mais peut-être je ne vais pas retrouver tout de suite. Alors...
Le poème complet.
Mon pauvre cœur est un hibou qu'on cloue, qu'on décloue, qu'on recloue. De sang, d'ardeur, il est à bout. Tous ceux qui m'aiment, je les loue. Donc ça répond et ça vient en plus à ce que vous dites. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus ?
Alors effectivement, le poème d'Apollinaire, il renvoie aussi à cette pratique-là, et le fait que René Perrault se soit approprié quelque part ce poème, avec cette idée d'être d'un cœur cloué, décloué, recloué, ça renvoie aussi, quelque part à son parcours biographique. Il grandit dans un monde qui est marqué par l'héritage de la Première Guerre mondiale. Lui-même, il est mobilisé pendant la Seconde Guerre mondiale et très choqué par sa période déjà sur le front, et ensuite par toutes les horreurs de la guerre. Et c'est aussi ce qui va en partie réorienter son œuvre et sa production artistique après la Seconde Guerre mondiale, où véritablement il va se centrer sur un univers qui va être celui de la nature, où l'être humain va disparaître alors qu'il était présent dans son œuvre jusque-là, et où finalement bah, son œuvre va se diriger vers les hiboux, les chouettes, les oiseaux, les plantes, les fleurs, les minéraux, etc. Et ça va devenir véritablement cet univers-là dont il va mettre un petit peu l'humain à l'écart.
Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cet artiste ?
Alors, ce qui nous a inspiré, en tout cas le point de départ de l'exposition, c'est de constater qu'on avait dans les collections du MUCEM une quantité importante de ces œuvres. On avait à peu près 400 de ces dessins, de ces gouaches, de ces aquarelles, de ces gravures, qu'on a redécouvert avec Marie-Charlotte Calafa en faisant une opération qui est une obligation légale dans les musées, le récollement, c'est-à-dire que tous les 10 ans, on doit s'assurer que les biens inscrits à l'inventaire du musée sont bien présents dans nos réserves, qu'ils sont dans un état de conservation satisfaisant, et en ouvrant eh bien, des boîtes et des boîtes de dessins et dans la réserve consacrée aux arts graphiques, on a été frappé par la diversité de la production de cet artiste, par aussi sa quantité, son ampleur, son intérêt, par la manière dont il se renouvelle stylistiquement de manière constante. On a une œuvre au MUCEM qui est conservée qui se place sur à peu près 4 ans, et en 4 ans, en fait, tous les quelques mois, il va changer de style, il va expérimenter sans cesse, et il va toujours essayer de renouveler sa pratique artistique. Ça nous a vraiment beaucoup frappé, et à partir de là, eh bien, on a exploré un peu le reste de son parcours. On a vu ce qu'il avait fait après la Seconde Guerre mondiale dans le domaine de la tapisserie, ce qu'il a fait avant dans le domaine de l'affiche, et on a construit ce parcours monographique pour reconstituer ce parcours artistique dans ce qu'il peut avoir de cohérent, de fil conducteur et aussi de détour, d'influence extérieure.
Alors, sur le titre, vous m'avez dit, qu'est-ce qui est en jeu dans cette exposition, au fond ? C'est de montrer le parcours de René Perrot, pas seulement, j'imagine.
Alors, c'est de montrer le parcours de René Perrot, mais de montrer
justement... Parce qu'il commence par affichiste, et il finit tapissier, enfin voilà. Pas tapissier, mais maître...
Cartonnier. Peintre cartonnier, c'est-à-dire qu'il prépare les cartons.
On va revenir sur tous ces termes que je vous avoue, je ne connaissais pas, parce qu'un lissier, je ne savais pas ce que c'était, un métier à tissier, je ne savais pas ce que c'était non plus, donc on y reviendra bien sûr, je vous laisse expliquer tout ça.
Donc justement, l'enjeu, outre le parcours de René Perrot, finalement, c'est aussi ce qu'il y a de singulier dans son parcours. C'est pas un artiste, un peintre qui va faire toute sa carrière sur un même sujet, sur un même thème, avec un même média. C'est véritablement un artiste qui va prendre des chemins de traverse. Par exemple, ce qui nous a intéressé dans ce qui est conservé dans les collections du MUCEM, c'est ce fonds qui vient du Musée National des Arts et Traditions Populaires, l'ancêtre
Absolument.
Du MUCEM,
ouais.
Et que l'on conserve dans nos collections, et tout ce qu'il va faire pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle il participe à un projet porté par le musée qu'on appelle les chantiers intellectuels, qui est une grande entreprise de connaissance finalement du monde rural traditionnel que l'on pense être en train de disparaître, qui est aussi utilisée par le musée eh bien, pour donner du travail à de jeunes gens, de jeunes artistes, de jeunes architectes, de jeunes diplômés d'écoles d'art et d'architecture, aussi pour en soustraire un certain nombre soit au service du travail obligatoire, soit à la vigilance des autorités d'occupation allemande ou du régime de Vichy, à dissimuler certaines activités de résistance. Un historien communiste dira après la guerre que ça a été une officine de faux papiers. Et en fait, ce travail qu'il va mener pendant la Seconde Guerre mondiale, documenter de manière artistique la réalité des campagnes françaises pendant la Seconde Guerre mondiale, du monde rural traditionnel dans tous ses aspects, on pourra y revenir, eh bien, ça va interroger véritablement aussi les rapports entre l'art, d'une part, et l'ethnographie, entre l'art et la science. Qu'est-ce que l'un peut apporter à l'autre, comment est-ce que le regard d'un artiste sur une réalité anthropologique, historique, sociale, économique, matérielle va apporter à cette réalité-là, et comment, à l'inverse, est-ce que cette démarche scientifique dans laquelle un artiste s'inscrit va aussi influer sur son travail. C'est-à-dire que c'est donc une monographie artistique, mais une monographie artistique qui a des interactions fortes avec l'histoire de son temps et aussi avec des disciplines scientifiques, avec l'intérêt pour le monde rural traditionnel, avec la construction de l'ethnologie. Et donc c'est aussi ça qui nous intéressait, de croiser ces différentes approches dans cette exposition.
Mais lui-même, au départ, c'est un artiste, c'est un peintre. C'est bien ça.
Alors,
Il n'a pas de formation scientifique.
Pas du tout, effectivement. Et alors lui, il a été formé dans les années 1930 à l'école des arts décoratifs. Il n'est pas formé à l'école des beaux-arts, donc c'est quelque part une formation intermédiaire, disons, qui n'est pas, qui n'a pas pour destination de former à proprement parler des peintres ou des sculpteurs, qui est plutôt la vocation de l'école des beaux-arts. C'est plutôt pour former des décorateurs, des gens qui vont travailler dans le domaine de la tapisserie, qui vont travailler dans le domaine du vitrail, qui vont travailler dans le domaine de la marqueterie, qui vont être amenés à réaliser tous ces grands programmes de décoration art déco qu'on connaît de la période de l'entre-deux-guerres. Mais c'est une formation artistique malgré tout extrêmement rigoureuse. René Perrot est un excellent dessinateur, il a une pratique du dessin extrêmement, extrêmement consommée qu'il a acquise à l'école des arts décoratifs, mais effectivement sa carrière professionnelle, disons, il va la commencer comme affichiste, où il va s'inscrire véritablement dans...
Ce qui demande quand même un certain talent.
Ce qui demande un certain talent.
Et d'ailleurs on peut voir certains dessins, gravures, etc., où on voit vraiment qu'il est... c'est un homme de talent.
Tout à fait, et en plus, ce que l'on voit dans ses affiches, c'est que finalement, il s'inscrit dans la modernité de cette époque, des années 1930, des œuvres des grands affichistes de cette période, qui sont aussi ses enseignants à l'école des arts décoratifs, comme Cassandre, par exemple. Et en même temps, dans les thématiques qu'il va traiter, on voit aussi poindre, sous cette modernité stylistique, ou en tout cas en complément avec cette modernité stylistique, son goût pour la ruralité, pour un monde rural dont il vient lui-même, puisqu'il est né à Cuse, dans le Doubs, dans un petit village du Doubs.
La France profonde.
La France profonde, ses deux parents étaient instituteurs dans le village, ses grands-parents étaient agriculteurs, donc avant d'arriver à Paris où il passe les années 1930 à Montmartre, où il passe du temps au cirque, où il est vraiment inscrit dans cette modernité,
à faire la fête aussi,
eh bien il est issu de ce monde rural auquel il reste très attaché.
Alors, sur cette exposition, vous êtes trois commissaires d'exposition. On l'a dit, Marie-Charlotte Calafa, donc conservatrice du patrimoine, responsable du département des collections et des ressources documentaires, Alice Bernadac, conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie, et vous-même, Raphaël Bory, donc conservateur du patrimoine, historien et responsable du pôle croyances et religions. Quel a été le rôle de chacun de vous et de quelle façon avez-vous pu travailler ensemble ?
Alors, comme je vous le disais, donc Marie-Charlotte Calafa, qui est ma collègue au MUCEM, on a cette mission de récollement ensemble, et c'est dans ce cadre-là qu'on a découvert l'œuvre de René Perrot, et à partir de cette découverte, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pourrait en faire pour exposer ses collections, parce que notre vocation de conservateur du patrimoine, c'est pas uniquement de conserver les œuvres, mais c'est aussi de les faire découvrir au public, bien évidemment. Et donc, en s'intéressant au parcours de René Perrot, on est tombé sur son travail de peintre cartonnier pour la tapisserie, et donc évidemment, c'est à ce moment-là...
On y reviendra pour expliquer un petit peu tout ça.
Tout à fait, avec plaisir.
Allez-y.
C'est à ce moment-là qu'on est rentré en contact avec notre collègue Alice Bernadac, qui est conservatrice de la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson, précisément, là où René Perrot faisait tisser ces tapisseries, et qu'on lui a proposé de co-construire ce projet ensemble, en mettant en lien finalement nos compétences respectives, les objets qu'on conserve, et de présenter cette exposition à Aubusson et à Marseille. Donc ça a été vraiment un travail collaboratif où chacun a apporté son expertise et qui nous a permis de présenter ce projet au public dans la Creuse à Aubusson et à Marseille avec des versions légèrement différentes. À Aubusson, ils ont un espace qui est plus grand et ils ont davantage mis l'accent sur la tapisserie. À Marseille, on a un espace un petit peu plus restreint mais qui est très beau.
320 mètres carrés parce
qu'il y a beaucoup d'espace de hauteur sous plafond, ce qui pour la tapisserie est un avantage puisque ça nous a permis de suspendre des tapisseries dans l'espace.
Qui sont très belles d'ailleurs.
Et qu'on voit en plus, dont on voit le revers, ce qui est assez intéressant, on en reparlera pour ce que
absolument,
ça permet de comprendre de leur fabrication technique.
Une exposition donc qui ne pouvait avoir lieu que dans le bâtiment Georges-Henri Rivière du MUCEM. Vous allez nous dire pourquoi ?
Eh bien, Georges-Henri Rivière, donc...
Qui est-il ?
Georges-Henri Rivière, c'est le créateur du Musée national des arts et traditions populaires, donc le musée...
L'ancêtre du MUCEM.
Et il y avait une exposition qui lui avait été consacrée au MUCEM en 2019, qui avait ouvert fin 2018 et en 2019, et qui présentait justement son travail sur ce musée et qui avait véritablement joué un rôle central dans l'étude et la collaboration collecte des objets de ce monde rural traditionnel français en train de disparaître. Et c'est lui qui est à l'origine aussi bien de ces chantiers intellectuels. C'est lui qui recrute René Perrot pour faire ce travail-là. Et effectivement, c'est aussi un hommage finalement à tout ce travail et au travail de des gens qui nous ont précédés, puisque le MUCEM fête cette année ses 10 ans. Mais en réalité, il est l'héritier d'une histoire qui est beaucoup plus longue.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est une question très bête, mais ça fait rien, je vais vous la poser, parce que c'est la question que je me suis posée. D'abord, à qui s'adresse cette exposition ? René Perrot, mon cœur est un hibou. Pour qui est faite cette exposition ? Est-ce que vous pensez que ça intéresse tout le monde ? Est-ce qu'aujourd'hui... à notre siècle, c'est une exposition qui traverse le siècle, le 20e siècle, avec les deux guerres, avec tout ce que ça représente aussi. Comment pensez-vous est-ce que vous avez eu des retours de cette exposition, puisqu'elle existe depuis le mois de novembre quand même, est-ce que vous avez eu des retours et en quoi ça intéresse et qui ça intéresse à Marseille, alors, aujourd'hui?
Quand on fait une exposition, on a toujours envie qu'elle intéresse le plus grand nombre de personnes possibles. Et finalement, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait qu'on a essayé de croiser différentes approches dans la manière dont on l'a abordé et dont on présente ce sujet, fait qu'elle peut s'adresser à des gens avec des centres d'intérêt un petit peu différents. Comme vous le disiez très bien, elle a une dimension historique assez forte, c'est un parcours qui s'inscrit véritablement dans cette histoire souvent tragique du XXe siècle. C'est une exposition qui également a cette dimension scientifique assez forte dans le sens où elle interroge véritablement les liens entre pratique artistique et ethnographie. C'est une exposition qui pose la question et qui met en avant, on parlait de Georges-Henri Rivière, aussi l'histoire des musées, et de manière peut-être un petit peu moins spécifique, c'est aussi une exposition qui montre des œuvres qui sont des œuvres d'art qui sont d'une grande diversité,
absolument,
qui sont d'une grande beauté et qui peuvent toucher aussi un public assez large. Outre le caractère, on a essayé d'être assez généreux, il y a beaucoup d'œuvres dans l'exposition qui peuvent plaire à différentes personnes et on en a qui sont assez accessibles dans le sens où ce sont des œuvres qui sont assez monumentales. On a des tapisseries qui font 5 mètres de large, on a des œuvres qui sont très colorées, on a des œuvres qui représentent des hiboux, des chouettes qui plaisent beaucoup aux enfants par exemple, qui quand ils entrent dans l'espace font
et c'est
le parcours,
plein de couleurs, c'est magnifique.
Les enfants font le parcours à l'envers dans le sens chronologique, nous on a pensé à un parcours où on suit la vie et l'œuvre de René Perrot, les enfants ils vont plutôt directement vers la fin parce qu'ils ont envie de voir les grandes tapisseries avec des chouettes et des hiboux et on est très contents qu'ils le fassent.
Alors MUCEM, comme chacun sait, héritier du musée des arts et traditions populaires, alors installé au palais du Trocadéro, devenu ensuite le palais de Chaillot. Premier musée consacré à la France populaire, essentiellement rurale. C'est dans ce sens-là que je me disais, c'est un monde, on assiste dans cette exposition aussi, dans les dessins surtout, les gravures, à un monde qui est en train de disparaître. C'est là la question que je me posais. Mais après tout, c'est une interrogation. Et pourquoi pas ce que vous disiez à propos de l'exposition qui a eu lieu il y a 2 ans ou 3 ans, qui disait « voir et comprendre ». C'est bien ça. Hein.
Voir, c'est comprendre.
Voir, c'est comprendre. Je crois que c'est ça, en fait. Ça permet de comprendre d'où on vient, pour savoir où on va aussi.
Ça en donne une idée en tout cas, et là je pourrais vous citer un autre titre d'exposition qui avait été conçu au début des années 1980 par le musée des arts et traditions populaires qui s'appelait « Hier pour demain ». Et c'est aussi une idée qui était centrale vraiment dès la création du musée. Alors en 1939, à l'exposition universelle de New York, la thématique était le monde de demain. Et dans le pavillon français, Georges-Henri Rivière et le musée des arts et traditions populaires avaient présenté toute une section qui était consacrée à la France rurale traditionnelle. Il y avait quelque chose d'un peu paradoxal là-dedans.
La France profonde.
Mais en fait, il expliquait ça dans un très beau texte où il se demandait le monde de demain, que sera-t-il ? Et où il appelait de ses voeux les progrès techniques et tous les changements positifs qu'il pouvait apporter pour les conditions de vie de la population. Mais il avançait également l'idée que, face à tout ce qui allait disparaître, peut-être qu'il y aurait également des choses qui allaient se perdre, et que lui, la manière dont il concevait sa mission, c'était d'en conserver quelque chose pour que, à un moment, lorsqu'on en ressentirait le besoin, on puisse aussi se retourner vers le passé pour voir ce qui pouvait aussi nous servir aujourd'hui. Et les questions environnementales, par exemple, de rapport à la nature, les questions aussi relatives à l'artisanat, au travail de la main. Le MUCEM, à travers cet héritage du Musée national des arts et traditions populaires, en est aujourd'hui un conservatoire assez formidable et qui peut être effectivement une source de réponse et de questionnement par rapport à tous ces enjeux-là et au monde contemporain.
En tout cas, vous êtes passionné quand vous en parlez. Je l'ai vu, l'exposition, mais presque j'aurais envie de la revoir. Nous allons terminer, en tout cas pour ce matin, par une chanson que vous avez choisie. Il s'agit de John Denver, Take Me Home. Pourquoi ce choix ?
Alors c'est une chanson déjà que j'aime beaucoup et que je trouve qui est une belle chanson, et en plus elle parle justement du rapport à là d'où on vient, là où on a envie de retourner, du rapport à la nature, et finalement cette personne qui parle de ces routes de campagne, qui chante à ce sujet-là, et bien justement moi ça me faisait penser à René Perrot qui arpente la campagne française de son doux natal pendant cette période troublée de la Seconde Guerre mondiale, et qui trouve une forme de réconfort aussi dans cette ruralité.
Donc dans cette chanson on passe de la France profonde à l'Amérique profonde en quelque sorte.
Tout à fait.
Je vous souhaite une bonne fin de matinée et on se retrouve demain matin avec cette chanson. Donc, merci beaucoup, à demain.
Merci à vous, à demain. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there. Older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home, country roads. Painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads, take me home to the place. Yesterday, yesterday.